France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Si on me demande ce qui fait l'essence de la gastronomie française, je dirais en premier que c'est le bouillon.
Bouillon de poule,
non. On peut derrière cuire autre chose dans le bouillon, on peut aussi en faire des sauces, on peut en faire plein de choses.
Vous voyez ça, oui. Mais si vous buvez, le bon bouillon, bouillon.
Au 19e siècle, le Suisse Maggi et l'Allemand Knorr vont concomitamment inventer la poudre de bouillon.
Les bouillons cubes là, tu vois, ça c'est fini. Pioutch, à la poubelle.
Alors je sais pas chez vous, mais chez moi il fait super froid. Du coup, je me suis lancé un bouillon de légumes, ça va faire du bien par vos appasses.
Au réfectoire, vous viendrez tout à l'heure et je vous ferai boire un grand bol de bouillon.
Oui, c'est ça.
Il sent bon ce bouillon.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster en ce premier dimanche de 2025. Les Chez-moi, chers auditeurs et chères auditrices, vous souhaitez une année haute en couleurs et en saveurs, une année pleine de bonnes choses et de bonnes ondes. Et si comme nous, vos agapes ont été un peu riches, un peu lourdes, voire légèrement arrosées, alors cette émission de la nouvelle année devrait vous intéresser. Aujourd'hui, on va prendre soin de son corps. On va aussi se réchauffer l'âme grâce à Jennifer Hartsmith. Bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous avoir pour cette première émission de l'année, Jennifer.
Moi aussi.
On vous connaît bien au micro de cette émission. Vous êtes pâtissière professionnelle, naturopathe, spécialiste en phytologie. Vous nous rappelez cette spécialité ?
C'est vraiment l'étude des plantes et un peu leurs bienfaits associés.
Très bien. Et vous avez signé de nombreux livres au croisement de l'alimentation et de la gastronomie. Le dernier, je l'ai à mes côtés, publié à la fin de l'année 2024 aux éditions Hachette Cuisine, c'est Bouillon Bienfaisant. Leur histoire, leur place dans de nombreuses civilisations culinaires à travers le monde. Vous interrogez, Jennifer, les bouillons à travers de nombreuses recettes savoureuses qui portent, selon vous, les clés nutritionnelles d'une alimentation bien-être qui n'oublie jamais le goût et le plaisir. Il y a également de nombreux témoignages et conseils de chefs, de scientifiques, on va voir ça tous ensemble. Enfin bref, avec vous le bouillon est tout sauf une punition. Pour nous accompagner tout au long de cette première émission de l'année, Elvira Masson et notre chef chroniqueuse Manon Fleury. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour à toutes et tous et bonne année.
Merci beaucoup Elvira et Manon. J'observe, Elvira, Manon, que vous avez chacune un rapport avec notre invité du jour. Elvira, vous avez signé à quatre mains avec Jennifer le livre gourmand de la ménopause.
Manuel gourmand de la ménopause,
le manuel, pour être précis. Absolument, le manuel gourmand de la ménopause aux éditions du Seuil. Et aujourd'hui justement, il est question d'une plante tout à fait intéressante.
Il est question de cresson. J'ai fait assez fort quand même parce que je sais que c'est une plante que Jennifer adore mais qui ne figure pas dans ce livre.
Incroyable.
Mais j'ai fait exprès.
Et non,
c'est juste que le cresson est au cœur d'un livre qui m'a beaucoup, beaucoup ému.
Le frisson du cresson avec Elvira Masson. Manon Fleury, alors vous êtes interviewée dans le livre de Jennifer, en qualité évidemment de chef de Datil, votre restaurant du 3e arrondissement de Paris, sur votre vision du bouillon. Vous allez d'ailleurs nous l'expliquer à travers une chronique très originale.
Oui, aujourd'hui je vais cuisiner un bouillon, mais en version sucrée, parce qu'il n'y a pas de recette sucrée dans le livre de Jennifer, avec un ingrédient mystère et un hommage discret à une pâtisserie bien connue,
ah oui,
qui je crois se déguste à partir de demain.
Exactement, on va en manger jusqu'à demain, j'aime la galette. En 2025, le mode d'emploi est toujours le même qu'en 2024, vous pouvez réagir dans notre émission en direct sur franceinter.fr ou sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com. Retrouvez toutes les infos liées à notre émission du jour sur franceinter.fr à la page on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Pour entamer cette émission, je vous ai demandé à chacune autour de ce plateau la bonne nouvelle qui va vous donner du baume au cœur et aussi à l'estomac peut-être en 2025, et Dieu sait si on en a besoin. Honneur à notre invitée Jennifer Hartsmith que vous attendez en 2025.
Écoutez, moi je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de l'ouverture de, il y a peut-être une semaine ou deux, de Wani Paris, le nouveau coffee shop du chef Sugio Yamaguchi, qui était anciennement chef cuisinier, qui a pris le temps aussi de sortir de la productivité, de réfléchir à quel lieu il voulait ouvrir. Et ce coffee shop regroupe autant du thé, du café, des cookies très fournis en matcha, ils sont verts, hyper saturés, des laits végétaux maison, des gâteaux, des tartes salées qui ressemblent à des jardins. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très réjouissant à l'idée d'avoir une offre assez limitée, mais très réfléchi et très poétique. C'est un peu comme s'il avait sélectionné tout ce qui était beau, tout ce qu'il aimait, et qu'il rendait hommage à tout ça. Donc, je pense que c'est un lieu très chaleureux. C'est donc au 7 rue Saint-Placide, dans le 6e. Et oui. Je pense qu'il faut aller faire un tour.
Coffee shop, Wani Paris. Quelqu'un a eu le temps d'aller y faire un tour ou pas ?
J'y suis passée hier.
Non ! Alors, verdict.
Ah bah c'était Manon hyper Fleury. Bon. Après, je suis un peu subjective, pas très objective, parce que j'adore ce chef et j'adore ce qu'il fait. Et je suis très contente qu'il ait ouvert son lieu. Et j'ai adoré, j'ai eu un petit coup de cœur pour les cookies au matcha qui sont délicieux. Et aussi, effectivement, le fait qu'il fasse des laits végétaux maison, ça change tout. Donc j'ai goûté aussi un matcha maison. C'était délicieux.
Sugio Yamaguchi, c'est quand même une sacrée signature sur la scène parisienne, un chef d'origine japonaise, et on a hâte de visiter effectivement ce lieu hybride, Wani Paris, 7 terres, rue Saint-Placide dans le 6e arrondissement de Paris. Manon Fleury.
Alors moi, en 2025, ce que je prévois, c'est fin février ou début mars, au printemps ou peut-être à l'été, il va y avoir la réouverture d'un lieu très important pour la cuisine française, la Grenouillère, du chef Alexandre Gauthier, situé à la Madeleine sous Montreuil, près de Montreuil-sur-Mer. Son restaurant réouvrira ses portes après près de 18 mois de fermeture suite à la catastrophe des inondations survenues dans le Nord-Pas-de-Calais en 2023. Pour les chefs de ma génération, Alexandre Gauthier, c'est un personnage très important, c'est un franc-tireur, innovant, qui a imaginé une cuisine très personnelle et marquante. Et pouvoir retourner à la Grenouillère, ce bâtiment sublime, imaginé par l'architecte Patrick Bouchain, ce sera à coup sûr un des temps forts de cette année. Non seulement pour moi, mais pour beaucoup d'autres qui sont très attachés à ce lieu puissant.
Alexandre Gauthier, absolument un chef qu'on aime beaucoup, hein, qu'on a reçu plusieurs fois à ce micro, qu'on accompagnera d'ailleurs à l'occasion de la réouverture de son restaurant, la Grenouillère, dans le Pas-de-Calais, à la Madeleine, sous Montreuil. On n'a pas de date très précise.
Non.
Les dégâts ont été tels que la reconstruction a pris du temps. Il est compliqué de prévoir effectivement une date de réouverture, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un chef incroyable qui a bâti un véritable écosystème gourmand, un écosystème très engagé dans la belle campagne du Pas-de-Calais, avec son restaurant gastronomique, mais il a aussi à cœur de faire des propositions beaucoup plus populaires, avec
des chambres d'hôtes,
des établissements, ouais. Même un café de village. Il y a également Surmer, qui est une formidable brasserie sur la côte d'Opale. Bref, on attend avec impatience, effectivement, la réouverture de la Grenouillère par Alexandre Gauthier. Elvira, vous avez quelque chose que vous attendez en 2025 ?
Pour ma part, j'attends avec hâte un livre qui va être publié au mois de mai en Grande-Bretagne, donc un livre en anglais exclusivement pour l'instant, qui s'appelle Bread and War, A Ukrainian Story of Food, Bravery and Hope, qui pourrait se traduire par Pain et guerre, une histoire ukrainienne de nourriture, de courage et d'espoir. C'est un livre de la journaliste grand reporter britannique Felicity Spector, un récit en quête de terrain mené en Ukraine auprès de paysans, boulangers, cuisiniers, humanitaires et soldats en ville, dans les campagnes et sur les lignes de front, qui nourrissent les Ukrainiens et les Ukrainiennes d'une manière ou d'une autre. Et Felicity Spector a également créé ou co-créé une plateforme association qui s'appelle bakeforukraine.org, qui lève des fonds, soit directement en ligne par le biais de donations, soit par le biais de pourcentages prélevés sur le pain vendu en Grande-Bretagne par des boulangers britanniques qui jouent le jeu, qui vendent des pains, soit inspirés de recettes ukrainiennes, soit des pains anglais. Et une petite partie des recettes est reversée et fait fonctionner Bake for Ukraine, dont le but est de soutenir les boulangers en exercice à Kiev, à Boutcha, à Kherson, à Kharkiv, en les fournissant en matériel, en équipement, etc. Donc pas de traduction encore prévue pour ce livre.
Ah, alors vous allez lancer un appel, j'imagine.
Oui, alors appelons à ce que soit traduit un livre qui n'est pas encore publié, c'est pas mal. Et l'éditeur en Grande-Bretagne est September Publishing avec Duckworth Books.
En voilà une très belle initiative.
Ouais, j'ai hâte de le lire.
La cuisine et les artisanats de bouche restent finalement un peu des signes d'espoir, même des signes de vie. Hein,
des signes de vie, de survie et d'espoir.
Dans un monde chahuté, même dans les pays en guerre comme l'Ukraine. Toutes les infos de ces bonnes nouvelles, entre guillemets, à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster, derrière la vitre de la régie, pour faire bouillonner cette première émission millésime 2025. Laurent Thomas avec Loïs Moreau à la technique, Fabrice Rivaud et Tiana Salle à la préparation. On plonge, vous allez voir, dans un délicieux bouillon préparé par notre invitée Jennifer Hartsmith. Ça, c'est juste après, dans une case, le nouveau titre de Mathieu Bogart, choisi par Djoubaka. Bonne année et bon appétit sur France Inter.
Dans une case, tu m'as mis. Dans une case, tu m'as mis. Entre les moches, les petits, les cons, les finis, les gris, j'atterris. Dans d'une catégorie. Et là, je ne peux plus bouger. Et là, je ne peux plus bouger. Carrément calé, carrément collé, oui, carrément coincé dans la case où tu m'as gazé. Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Je dis c'est une erreur, j'ai rien à faire dans le secteur. Y'a pas la hauteur, y'a pas la longueur, y'a pas la largeur. Fallait pas appuyer enter. Quelle idée de fais-tu de moi? C'est trop réduit, c'est trop étroit. Dans ta tête dure, combien je mesure? Un tout petit poids. Ah ça c'est sûr, c'est pas la joie. Si je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je veux sortir d'ici. Dans une case tu m'as mis. Y aurait-il moyen de bouger un peu? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux, ce petit coin de ta tête où tu me retiens. Tu m'arrêtes, je ne deviens rien qu'une étiquette. Ce n'est pas malin, c'est bête. Dans une case tu m'as mis.
Dans une case tu m'as mis.
Dans une case tu m'as mis. Dans une case tu m'as mis.
Dans une case tu m'as mis.
Dans une case.
Dans une case.
Dans une case.
Dans une case.
Dans une case tu m'as mis.
On plonge la tête la première dans la culture bouillon grâce à ce bol fumant qu'il y a sous nos micros. Alors, je vous annonce que c'est un bouillon, mais c'est un bouillon Jennifer et Elvira que vous allez déguster à l'aveugle, préparé, spécialement mitonné par notre invitée Jennifer Hartsmith. On peut dire que c'est un bouillon de circonstances. Qui veut commencer?
De circonstances, un post-agape de Noël.
Ah ah, Manon.
Alors, c'est gras.
Oui.
Moi, ça m'évoque un bouillon de poule. Ouais. Ça sent au nez, ça sent, moi je trouve que ça sent la badiane.
Oui.
Alors, ça sent les épices douces.
Les épices douces.
Le Jennifer, opine du chef. Il y a plein de bonnes réponses visiblement. Alors épices douces, badiane, bouillon de poule, mais encore.
Donc c'est le reste de la volaille de Noël.
Tout à fait.
La carcasse c'est de ça. La volaille de Noël. Mmh. Avec des légumes.
Oui.
Un peu de navet. Les légumes qui traînaient également autour de la volaille. Il y a du navet, il y a de la badiane, il y a un peu de cannelle aussi.
Mmh.
Je le connais un peu ce bouillon aux épices douces. Hein.
C'est vrai.
Ouais.
Il y a un côté non. Un peu, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais il y a un côté un peu feu vietnamien en fait.
Exactement. Ouais.
Mais c'est vrai qu'on sent cette trame épicée. Alors on a entendu anis étoilé, on a entendu cannelle.
Ouais. Est-ce que vous sentez des arômes un peu citronnés?
Et
ou
la citronnée.
Oui.
On dirait qu'il y a des agrumes.
Il y a une belle acidité, j'allais le dire. Ouais. Il y a une vivacité dans ce bouillon.
Alors on est vraiment sur le bouillon de la dinde de Noël. Hein. Mmh. Elle était tellement énorme qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Ça aurait été dommage de l'acheter comme ça. J'avais envie d'honorer sa vie jusqu'au bout. Et c'est effectivement un bouillon qui est très riche donc, de la carcasse. Il y avait aussi les pâtes, il y avait aussi la tête, il y avait absolument tout. Et j'y ai mis les épices très digestives effectivement du feu. Donc la badiane, la cannelle, la coriandre aussi, qui passe souvent davantage en graines qu'en feuilles pour certaines personnes qui ont une aversion pour la coriandre.
C'est vrai,
et j'ai mis aussi des feuilles d'agrumes, des feuilles de une feuille de combava, parce que c'est tellement fort.
Qui donne cette fraîcheur aussi.
Oui.
Voilà, c'est ça. Et il y a aussi une feuille d'une main de Bouddha, mais ça peut être une feuille de citronnier. Je trouve que les feuilles des agrumes sont souvent sous-utilisées aussi. Alors, on a plus la chance de les avoir dans le sud qu'à Paris. Mais voilà, là, c'est un peu un mix entre des arômes citronnés et les épices un peu, justement, fortes. Mais, c'est-à-dire fortes dans l'arôme, mais qui enrôment un peu la carcasse de la volaille. Donc, voilà.
Et quels légumes, pardon?
Et là, on est effectivement sur les légumes de la volaille, c'est-à-dire le navet, les carottes, qui ont baigné dans le bouillon, et une petite touche de vinaigre, parce qu'on le verra aussi, mais tous les bouillons ont une adjonction d'acidité. Alors, parfois, c'est le citron, parfois, c'est le vinaigre. J'ai pu découvrir aussi que c'était parfois le tamarin, qui a un arôme un petit peu doux, sucré. Mais l'acidité, elle est toujours apportée à la fin dans la partie de l'assaisonnement.
C'est ce que vous dites dans votre livre « Bouillon bienfaisant », Jennifer Hartsmith, aux éditions Hachette Cuisine. Un bouillon, ça se condimente. Il y a la dernière touche qui vient lui apporter du relief, de la vivacité. Ça passe souvent par l'acidité, ce peut être des vinaigres, des agrumes.
C'est très important, effectivement, parce que si on part sur une eau juste infusée, on peut être un peu déçu, ça peut être déceptif. Là, on peut être vraiment dans une approche, certes très santé, mais qui va manquer de gourmandise. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que pour réfléchir à l'assaisonnement, il faut essayer d'imaginer que dans le bouillon, on doit trouver toutes les saveurs, le sucré, le salé, l'acide, l'amer. Et on équilibre comme ça et on fait sa cuisine. Donc, effectivement, les recettes ont une dimension inspirationnelle du livre, mais il faut prendre des libertés aussi. Il faut pouvoir rectifier ces assaisonnements.
On nous demande déjà sur nos réseaux, Jennifer Hartsmith, combien de temps de cuisson? On va voir qu'un bouillon peut être instantané, c'est ça qui est intéressant dans la deuxième partie de cette émission. Mais là, en l'occurrence, pour un traditionnel bouillon de volaille, j'ai presque envie de dire à la française.
Bah, pour ce bouillon à la française,
cette carcasse, c'est combien de temps?
Là, j'étais quand même sur 6 heures, 8 heures. Alors, quand on fait les bouillons du four, c'est même 24 heures. Il y a beaucoup, effectivement, de divergences. Mais en tout cas, il faut considérer que quand on fait un bouillon d'os, on est sur une cuisson douce, longue, lente, pour que vraiment, on arrive aussi à extraire tous les nutriments, le collagène, la glucosamine chondroïtine, les minéraux, les oligo-aimants, tout ce qui va nous intéresser et aussi la concentration de goût. Par contre, effectivement, quand on est sur des légumes, ça va beaucoup plus vite, mais il ne faut pas non plus ne pas faire de bouillon parce qu'on se dit ça va être chronophage, ça va prendre du temps, ça peut faire l'effet inverse. En fait, l'idée, c'est plutôt de trouver un moyen de l'intégrer un peu quotidiennement. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, c'est trop long.
On commence en beauté avec cette recette que vous avez intitulée « Bouillon de volaille des lendemains de fête », mais qu'on aurait pu appeler aussi un bouillon récup dans tous les sens du terme.
Exactement.
Parce que vous récupérez effectivement la carcasse de la volaille, mais également les légumes qui font parfois un peu la tête dans le bac à légumes de notre frigo. Et récup aussi au sens récupération de l'organisme, récupération dix fois, du foie. Et on y vient justement parce que, vous l'avez déjà dit à ce micro, Jennifer, mais au risque de se répéter... Vous n'aimez pas beaucoup l'expression de détox, et vous dites même qu'il y a beaucoup d'intox dans la détox.
Oui, il y a un petit effet de mode où tout de suite après les fêtes, on nous parle de détoxifier l'organisme, le foie. Mais en fait, il faut considérer que le foie a déjà énormément travaillé pendant les fêtes, il a été sursollicité, et c'est comme s'il avait fait justement beaucoup la fête, et on lui demandait tout de suite de faire le ménage. Et c'est lui encore qui est ultra sollicité quand il fait le ménage. Donc finalement, juste revenir à une alimentation un petit peu normale d'après fête, l'équivalent d'une semaine, deux semaines, trouver des ingrédients qui vont le soutenir, des choses très faciles d'accès, comme le citron, le romarin, il y a des plantes qu'on connaît peut-être un petit peu moins, qui sont faciles à trouver en herboristerie, en magasin bio, en pharmacie. Le chardon-marie, par exemple, l'artichaut, la fume-terre. Là, c'est des plantes qui soutiennent. On ne va pas drainer, on ne va pas le violenter.
Parce qu'effectivement, il ne faut pas brutaliser ce foie qui est, comme vous le dites, une véritable usine, hein, de manière tout à fait spectaculaire, qui filtre jusqu'à 2400 litres de sang par jour. Et là, il ne faut pas lui imposer tout d'un coup, du jour au lendemain, une espèce de détox. Cette détox drainante, elle vient plutôt dans une deuxième partie, c'est-à-dire février-mars, c'est ça?
Voilà, c'est ça. On va privilégier, par exemple, des légumes ou des plantes ou des ingrédients qui vont être dites cholagogues, c'est-à-dire qui vont l'obliger un petit peu comme ça, lui imposer des spasmes pour faire un effet pompe, où ça va être aussi des plantes cholérétiques qui vont augmenter la production de bile. Donc c'est un petit peu comme si on l'obligeait à travailler davantage, alors que comme j'ai dit, il a déjà bien bossé, on lui laisse du répit, et à peu près vers mi-janvier, fin janvier, là on peut commencer à drainer radis noir, qu'on trouve aussi assez facilement, artichaut de manière très concentrée, pissenlit aussi qui va arriver à l'entrée du printemps, qui est super, donc voilà.
Il y a d'ailleurs de très jolies recettes dans votre livre, au chapitre, puisque c'est classé en fait par, j'ai presque envie de dire, par bienfait ou par intention préventive. On peut soigner par les bouillons, enfin soigner. Là, il faut, attention, mettre 14 guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'un médicament curatif.
Il n'y a pas d'approche curative dans le bouillon, on ne prétend pas guérir de quelque chose. L'idée, c'est plutôt de soutenir. Moi, j'ai regroupé par les chapitres, par des moments qu'on pourrait considérer comme des moments de vulnérabilité. Ça peut être aussi des moments où justement, comme on dit, ils ont une dimension réchauffante du corps et de l'âme. Donc, le postpartum, qui est très connu en Asie, le mois d'or, où la maman est justement pas forcément vulnérable, mais pas forcément une grande...
Du postpartum, pour ceux qui n'ont pas entendu,
c'est juste après la grossesse. Et en Asie, pendant un mois, la maman ne doit pas se lever, ne doit pas forcément faire grand chose, et elle s'abreuve beaucoup de bouillons riches en collagène pour favoriser la récupération du corps. Mais ça peut être aussi effectivement la convalescence après une grippe, après un rhume. Ça peut être aussi même pour les personnes âgées qui ont parfois des difficultés à manger, ça vient soutenir des périodes de vulnérabilité, de fragilité, sans pour autant être dans une dimension curative.
Il y a de formidables bouillons pour la récupération sportive, sportives, pour la santé du foie, on l'a dit, pour la dépression et la santé mentale, pour booster les défenses immunitaires, pour favoriser la reminéralisation, mais aussi pour le pro-âge, pour les personnes très âgées qui ont des difficultés à mastiquer par exemple, car le bouillon a cette vertu aussi évidemment d'être hydratant, mais aussi tout à fait digeste. Il contient des nutriments très assimilables.
Il apaise aussi tout ce qui va être de l'ordre de l'inflammation du digestif. Donc ça, c'est super, de par sa richesse en collagène, en glucosamine, chondroïtine, justement, il y a un effet un peu pansement sur l'intestin. C'est aussi pour ça qu'il est super juste après les fêtes, en cette période, en ce moment. Mais effectivement, c'était intéressant d'avoir des avis d'experts, d'expertes scientifiques aussi, pour corroborer, ou même, pourquoi pas, invalider ce qu'on raconte un peu du bouillon de manière empirique. Parce que moi, à travers les interviews, ce que je trouvais super, c'était de me rendre compte qu'il a une dimension, effectivement, associée à la santé de fait, assez naturellement. Mais qu'est-ce que nous dit la science à ce sujet ? Donc c'était intéressant de voir que c'est effectivement un concentré de nutriments et qu'il a cette dimension complémentation naturelle qui pouvait être très, très favorable à tout le monde, absolument tout le monde, les enfants, les personnes âgées, tout le monde.
Car votre livre, Jennifer Hartsmith, est beaucoup plus qu'un livre de recettes, il est enrichi de très nombreux conseils et interviews. On y retrouve par exemple des personnages qu'on connaît bien ou moins bien. Martine Blaise, la célèbre pharmacienne herboriste, Joumana Jacob, chef franco-libanaise, la chef iranienne Milou Sabahi, également Emily Stenbach, alors elle est passionnante, neuroscientifique.
Spécialiste en microbiome, donc c'est-à-dire vraiment le milieu. Le microbiote, c'est vraiment tout ce qui tapisse l'intestin. Elle s'intéresse au milieu du microbiote en général et aussi la relation entre cerveau et intestin. Donc c'était intéressant de lui demander effectivement est-ce qu'il y avait une association de nutriments qui était. Enfin, est-ce que vraiment il y avait un bénéfice des nutriments sur le microbiote, et c'était son retour.
La réponse est
chouette.
Oui.
La réponse est oui. Et effectivement, mais alors ce qui est chouette avec la science, c'est qu'il y a aussi il y a toujours un principe de précaution. On ne pourra jamais dire que c'est un effet curatif ou autre, mais en tout cas, il y a des études assez favorables qui sont intéressantes. Et ce qui m'intéressait surtout, comme vous l'avez dit, toutes les personnes que vous avez citées, c'est des personnes qui ont aussi des influences internationales. Et c'est là où on voit que le bouillon a aussi cette dimension très collective, très universelle. Dans toutes les cultures, il a une présence. Alors, il est fait souvent, il y a des similitudes qui sont assez incroyables. Et parfois aussi, il y a des biais, des rencontres qui se sont faites. Par exemple, le pot-au-feu qui est devenu le faux au Vietnam. Mais c'était intéressant de recueillir une parole plus collective, en tout cas.
On va faire un petit tour du monde, justement, des bouillons, grâce à vous, Jennifer, dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez dans votre livre cette très belle définition des bouillons. Les bouillons mettent tout le monde d'accord sur un point, ils sauvent de tout, à commencer par les lendemains de fête, en passant par le postpartum, jusqu'aux souvenirs émotionnels de convalescence teintés de bols fumants pour ranimer nos âmes fatiguées, esselées ou désœuvrées. Il y a une dimension affective très importante dans les bouillons.
Tout à fait. Je me suis rendu compte que c'était davantage les bouillons, la Madeleine de Proust, que la vraie Madeleine, finalement, justement à travers les interviews, même de Manon ou des autres chefs. Il y a toujours une association très liée à l'enfance, très liée à l'affect. Donc c'était chouette d'avoir aussi cette parole-là, pas juste scientifique ou pas juste culinaire, mais à quel moment aussi les bouillons ont une importance dans la vie des gens.
Une plante bien de saison avec Elvire Masson.
On va déguster sur France Inter.
Je crois savoir, ma chère Elvira Masson, que le cresson vous donne des frissons. Et ça tombe bien, c'est la saison.
Une route poussiéreuse qui traverse les champs de maïs de l'Ohio. Une vieille Pontiac rouge ternie par le soleil ardent et la neige mordante de ce Midwest où se sont établis les parents de la narratrice, Andrea Wang, alors arrivée de Chine. Les parents d'Andrea, alors enfant, au moment de ce récit, à l'arrière de la voiture avec son frère, s'arrête soudain après avoir repéré du cresson qui pousse au bord de cette route. Aussitôt descendus de la voiture, ils extirpent du fond du coffre un sac en papier brun, des ciseaux rouillés et leur nostalgie de la Chine. La petite Andrea ne s'en amuse pas, les pieds dans l'eau glacée, elle obéit aux consignes de ramassage mais baisse la tête de peur de croiser quelqu'un qu'elle connaît. Ce soir-là, à table, il y a un plat de cresson luisant d'huile d'ail et parsemé de graines de sésame. Je n'ai pas la moindre envie d'en manger, même pas une bouchée. Je ne veux manger que les légumes achetés au magasin. La mère d'Andrea montre alors à ses enfants une photo jaunie de son enfance, en Chine, durant la grande famine, et révèle ainsi la douleur, la mémoire et un secret tu jusqu'alors. Une histoire de cresson qui n'a pas pu tous les sauver. Je ne vous la révèle pas davantage. Je vous laisse découvrir en famille, avec vos enfants, vos petits-enfants, ce si beau livre, Le goût du cresson, d'Andrea Wang et Jason Chin. Un si beau livre qui raconte tant de choses avec délicatesse. L'exil, le manque de mots, le poids des secrets, la nécessité de les révéler, les déchirements des enfants de l'immigration, le besoin d'émancipation, la honte de ses parents pas comme tout le monde, puis la honte d'avoir eu honte, et toujours, comme on essaie de le raconter nous si souvent ici, la transmission d'une mémoire par la cuisine, par un plat, par un produit, aussi modeste soit-il. Une histoire simple, magnifiquement illustrée par le travail très cinématographique de Jason Chin. Ce livre a été récompensé par la médaille Caldecott, qui est le prix le plus prestigieux pour l'illustration jeunesse aux États-Unis. Il a été publié en France au mois d'octobre dernier par une maison d'édition établie à Amboise, qui s'appelle Hong Fei, qui est consacrée à la littérature jeunesse et qui est très attachée à l'interculturalité. Le sujet de l'interculturalité qui est également très présent dans ton livre, Jennifer. Bien que j'ai quand même réussi, comme je le disais en début d'émission, à dégoter le seul produit, le cresson, qui ne figure pas dans le livre de Jennifer. J'ai cherché,
c'est une performance.
Que c'est un produit que tu adores, j'adore, aussi bien pour son goût poivré que pour ses bienfaits. Et on parle là plutôt du cresson de fontaine, cette plante vivace aquatique qu'on croise, qui est cultivée, qu'on trouve le plus souvent sur les marchés, mais qu'on trouve également à l'état sauvage, en bordure de ruisseaux.
On dit que cette plante pousse les pieds dans l'eau et la tête au soleil.
Exactement.
À ne pas confondre avec le cresson alénois, qui est un autre type de cresson. Et c'est une plante que tu adores, Jennifer, mais qui, effectivement, malgré ses vertus reminéralisantes, ne figure pas...
assez mise en avant, c'est vrai.
Non, mais tu l'as beaucoup mise en avant dans tes livres précédents. Ce très beau livre,
Le
goût du cresson.
Avec des illustrations superbes, je pense que c'est de l'aquarelle d'ailleurs, des teintes assez pastel.
Magnifique.
C'est très poétique.
Ouais, c'est chouette.
C'est vraiment superbe.
Et je vous en dis pas plus, que vraiment j'aimerais que vous le découvriez, seul ou en famille, peu importe. J'étais complètement saisie et bouleversée par ce récit.
Le goût du cresson, Andrea Wang et Jason Chin. Et on voit d'ailleurs sur la couverture cette jeune fille qui a les pieds dans l'eau en train de ramasser du cresson, cette plante semi-aquatique de la famille des brassicacées d'ailleurs.
Exactement.
On est dans la grande famille des choux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on y retrouve un peu comme le radis noir,
ces
notes un peu poivrées.
Et elle a aussi une dimension un petit peu... Il y a une présence de soufre qui est assez importante, donc elle a aussi une dimension un petit peu... C'est pas mais nettoyante, mais de manière très douce. Donc,
elle est bienvenue.
Et elle peut être cuite un petit peu longue, comme l'explique justement aussi Minou Savadi. Il y a aussi une tradition des bouillons mélangés à des herbes cuites longuement parfois, mais on peut aussi faire une tombée d'herbes avec des herbes dites crues qui cuisent juste quelques minutes et c'est délicieux.
On explore les bouillons avec notre invitée Jennifer Hartsmith. Je voulais profiter de cette première émission de 2025 pour rendre un hommage à celle qui nous a quittés en 2024, fin 2024, le 21 décembre précisément, à Rion-des-Landes, le village du sud-ouest qu'il a vu naître 86 ans plus tôt, Maïté, évidemment, la grande figure de la gastronomie qui faisait klaxonner son accent rocailleux, son fort caractère, ses manières truculentes dans la cuisine des mousquetaires, programme qu'elle a animé aux côtés de sa complice Micheline sur France 3 de 1983 à 1999. Et vous savez quoi ? Maïté avait aussi pratiqué un peu... à contre-courant de ces recettes gasconnes opulentes et roboratives, le bouillon.
Bonjour, on va faire un bouillon blanc de langoustine, des huîtres en brochette.
Ah non, ça c'est pas possible parce que les huîtres en brochette c'est mou et ça va tout pendouiller partout.
Avec Maïté, rien n'est impossible et vous allez voir, j'ai un truc sensationnel.
Bon, et par quelle recette va-t-on commencer ?
On va faire le bouillon de langoustine.
Comment fait-on ?
J'ai mis du lait dans ce pot. Je vais y plonger mes langoustines dedans.
Oui, c'est très vite cuit les corps de
langoustines. Pendant ce temps, je vais éplucher une gousse d'ail, parce qu'il m'en manque un petit peu là.
5-6 gousses d'ail.
Alors, je vais couper un peu de perle. Avec mon
voilà votre
coton.
Belle miche de Rion-des-Landes.
Ouais.
Et avec quoi vous allez les faire tremper
avec
ce pain ?
Avec du lait.
Et les langoustines, vous croyez que ça va aller ?
Je vais les sortir.
Alors, pendant qu'elles refroidissent un peu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ?
Je vais finir mon bouillon. C'est-à-dire, je vais y mettre mes gousses d'ail.
Ça aura du goût.
Il faut. Je vais y mettre du thym, d'une feuille de laurier, un petit poil de persil. Après, quelques piments.
Ça va relever, hein,
voilà.
Sérieusement.
Ça, c'est sûr. Et je vais y verser le pain que j'ai mis à tremper dans le lait. Et tout ça, ça va épaissir.
Bon, ben nous allons pouvoir les décortiquer.
Décortiquer nos langoustines. Les têtes, tac, je les écrase. Ne vous inquiétez pas, elles sont mortes.
Non.
Je vais mettre ça dans mon bouillon. Voilà. Et on va laisser bouillir, mitonner un petit peu tout ça. Je vais me le vider
dans une passoire.
Je vais serrer tout ce que je peux.
L'écraser au pilon.
Voilà. Ça, c'est pas facile. Là, du sel. Et c'est pas joli, ça.
Le bouillon blanc de langoustine, qui doit être délicieux.
Et joli. Merci, à bientôt.
On va déguster.
Cosmica de Bad Bad Not Good et Tim Bernardas.
On va déguster. Sur France Inter.
Culture, bouillon et bouillon de culture au menu dont on va déguster avec notre invitée du jour, Jennifer Hartsmith, autrice de bouillons bienfaisants chez Hachette Cuisine. J'ai puisé un nombre de bonnes idées incroyables. Il y a notamment ce bouillon à faire pour récupérer par exemple les feuilles d'artichaut. On y ajoute du clou de girofle. On obtient un bouillon qu'on fait assez rapidement. C'est vrai que les feuilles d'artichaut, on a tendance à les jeter. Alors évidemment, on choisit des artichauts qui sont biologiques, non traités. Et on peut récupérer les feuilles pour en faire un très bon bouillon qui est même assez dépuratif.
Oui, alors là, pour le coup, il sera parfait à la mi-janvier. Mais c'est vrai que le bouillon, il a vraiment cette dimension zéro déchet. Et il y a plein de parties de légumes que parfois on a l'habitude de jeter. Et là, les feuilles d'artichaut, c'est parfait.
Oui.
Il y a vraiment une grande quantité de nutriments en plus dans les feuilles qui serait dommage de jeter justement sur la partie drainante. Donc les clous de girofle aussi, là c'est digestif, un peu vermifuge aussi. Donc les bouillons, c'est bien de les avoir comme base et on peut les enrichir. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Martine Blaise, les enrichir de plantes justement qui ne sont pas forcément très gourmandes. Hein. Même par exemple, moi j'aime bien les tisanes, mais je ne me dis pas ouais, chouette, je vais me faire une tisane. Alors que par exemple, un bouillon de légumes enrichi avec des plantes qui n'ont pas trop de goût, mais plein de bienfaits, bah là c'est plus intéressant.
Un bouillon qui nécessite très peu d'ingrédients, qui est assez rapide, avec des ingrédients qui se potentialisent entre eux. Le bouillon de radis noir, zeste de citron.
Ouais, voilà, pareil, le radis noir, ça m'excite pas trop, moi, comme ça, perso, sauf s'il est cru, un peu assaisonné, agrémenté. Mais là, justement, l'association citron-radis noir, ça vient un petit peu atténuer ce côté, ce parfum très soufré, un petit peu difficile parfois du radis noir. Et donc, même la coriandre marche aussi très bien avec le radis noir. Donc, effectivement, il y a des légumes comme ça où on peut faire un peu la tête à l'idée d'y aller, mais si on les associe bien, on les assaisonne bien, et on les met avec des plantes qui vont justement alléger un petit peu le goût, c'est pas mal.
Et il y a plein de recettes signées Jennifer Hartsmith à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. Ça réagit beaucoup sur notre mail, Elvira Masson.
Beaucoup de partages de recettes de bouillon familial, notamment celle d'Armel, qui nous dit qu'au Portugal, on fait un bouillon de poule qui s'appelle canja, une soupe qui est surtout servie aux enfants. On y trouve de la poule, des abats, des œufs, des petites pâtes, de l'origan, et elle est servie avec quelques feuilles de menthe.
Ça fait envie. Ouais, ah oui, la menthe pour la fraîcheur, on y revient à cette fameuse vivacité.
Et question qui fâche peut-être, que pense-t-on, ça revient beaucoup, des bouillons cubes tout faits de marque
C'est surtout le dosage entre la matière première, on va dire, soit les légumes déshydratés ou les matières animales, et les additifs et les conservateurs. Et en fait, c'est ce dosage-là qu'il faut regarder. Malheureusement, ils sont plus allés vers des additifs, même du sucre, du sel, et pas forcément de très bonne qualité. Des arômes. Alors que finalement, on voit quand même revenir sur le devant de la scène toute une mouvance de cubes de bouillon, justement, où peut-être les gens ont pris le temps de se reposer sur la recette initiale, revenir aux fondamentaux, et là on trouve effectivement une richesse de nutriments. Mais le côté industriel a plutôt tendance à appauvrir l'aspect nutritionnel.
Mais il est vrai qu'il y a une vraie tendance de bouillon artisanaux. On a évoqué à ce micro les bouillons Umami, alors OU au début, Umami, c'est une jeune marque fondée par Aline Lebren Baron, qui fabrique artisanalement dans la région du Mans des bouillons très aromatiques, riches en collagène et en acides aminés, conditionnés dans des bocaux, comme vous le dites, Elvira Masson.
Super,
des bocaux en verre.
Le postpartum, justement, parce que absolument. Le faire, c'est long. Donc,
voilà. Avec des mijotages jusqu'à 24 heures. Il y a également, alors j'ai eu l'occasion de les goûter et de les approuver, les bouillons traditionnels de volaille fermière de Maison Bouillon. Ça, c'est aussi des bouillons très intéressants. Il y a les bouillons Ariake qui sont un peu plus industriels mais sans conservateurs, qui sont tout à fait naturels. Vous observez aussi, Manon Fleury, cette tendance des bouillons artisanaux en vente désormais.
Oui. Après moi, je suis un peu de la même chapelle que Jennifer. C'est
évidemment
que je préfère toujours prendre trois légumes dans le bac à légumes.
On n'en attend pas moins de vous.
Mais moi, il y a une boutique à côté du restaurant qui s'appelle Miam, qui fournit des légumes, des épiceries, etc. dans le 3e arrondissement, et qui fait des fabuleux bouillons de légumes en poudre. Et c'est vrai que ça permet de gagner du temps quand on a envie de se faire.
Il y a également au Pays Basque les bouillons d'Oatsu, qui sont spécialisés dans les bouillons d'os, très riches et très concentrés en collagène aussi.
Jennifer, vous nous le disiez, le bouillon est une culture universelle. Eh bien, on va le prouver avec un nouvel exemple. On verse à présent, si vous le voulez bien, dans un bouillon emblématique de la culture vietnamienne. Vous me voyez venir, évidemment.
Faux.
Voilà, faux, qu'on prononce faux. Feu. C'est ça, la vraie prononciation. Je me suis offert un formidable aller-retour en Paris Hanoï, sans quitter Paris, accompagné de Salomé Costagliola, excusez-moi, une jeune journaliste passionnée de cuisine vietnamienne, direction le 13e arrondissement de la capitale, pour une expérience autant saveur.
Moi je suis Monsieur T, le restaurant s'appelle Pho Thai. Je suis venu en France en 68, mais comme j'ai pas de sous pour faire les études, j'ai fait la plonge dans un restaurant vietnamien. Et la dame il a dit, vous apprenez le métier, parce que même un clochard parle français mieux que vous, il a dit. Alors, j'ai appris le métier. J'étais au Vietnam aussi pour apprendre à faire la cuisine. J'ai appris la recette de ma mère et je suis presque le premier à vendre du soupe-feu en 1972. À l'époque, le feu, les gens ne connaissent pas. Mais après, au fur et à mesure, les gens commencent à aimer la cuisine vietnamienne parce qu'il n'y a pas beaucoup d'huile. C'est très sain et c'est un plat complet, pas cher. Par exemple, chez nous, le feu, il fait 13,80 et quand on prend un soupe-feu, il peut tenir jusqu'au le soir à 9h. Je crois que je suis le premier asiatique vietnamien qui a eu Michelin pendant 10 ans dans toute l'Europe.
Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce plat, cette spécialité, la soupe feu, est-ce que vous pourriez nous la définir?
Il y a deux choses. Il y a la soupe feu du sud et la soupe feu du nord. Parce que les nord, ils mangent clair. Et les soupes du sud, ils mangent clair mais avec un bol de gras qui s'appelle le béo. Et elle ajoute dedans.
Au départ, c'est plutôt un feu du nord ici.
Je mets entre les deux. Parce que le nord, il mange plus salé. Le sud, il mange plus sucré. Donc je mets entre les deux.
Est-ce qu'on a le droit de passer une tête en cuisine pour voir comment ça se passe?
Oui, venez voir. Ouais. C'est un peu petit.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez bien?
Ça, c'est la soupe feu. Vous voyez, la soupe est claire. Bon, on met des oignons. Les oignons, il faut griller avec du gingembre.
On a des grandes marmites,
ouais.
Énormes.
Et on met des gros morceaux de os de bœuf, vous voyez. Et aussi, on met des plats de côte. Après, une fois les plats de côte cuits, on enlève et on coupe en tranches. Il y en a aussi le poitrine de bœuf. Il y a les épices, il y en a anis. Il y en a aussi
anis, c'est l'anis étoilé ?
Oui, anis étoilé. L'anis où on fait du rica. Oui.
Il y a aussi de la cannelle ?
Cannelle, il y en a un peu. Je ne dévoile pas tout, mais après, les gens, ils copient mon secret.
Le secret de votre bouillon, c'est quand même de mijoter très longtemps.
Ouais, le secret, c'est qu'il faut minimum 4 heures. Ça, c'est nouilles frais.
Donc, nouilles de riz.
Ouais.
Là, vous les plongez dans l'eau bouillante.
Ouais, pendant une petite minute. Et après,
vous sortez les bols. Alors là, vous égouttez les nouilles. Vous les mettez dans le bol. Vous versez deux bouillons différents.
Ouais, ouais.
Ça sent bon.
Ça sent bon. Allez-y, bon appétit. Hein. S'il y a quelque chose, vous me direz. Si c'est pas bon, je change de cuisinier.
On se met à table. Merci. Ouais.
Je m'appelle Salomé Costagliola, je suis étudiante en journalisme et passionnée de cuisine, dont la cuisine vietnamienne. Mon grand-père est parti vivre là-bas il y a une trentaine d'années et il a fallu que ce soit nous qui nous déplacions il y a une dizaine d'années pour faire notre premier voyage là-bas quand j'avais 12 ans.
Tu aimes bien la feu ?
J'adore ça. Et j'ai une expérience un peu particulière parce que la première fois que j'en ai mangé une véritable, c'était dans un vieux boui-boui à Ho Chi Minh. Et je me souviens avoir été frappée par le fait que cette soupe n'avait pas du tout le même goût au Vietnam qu'en France. Et là, je m'apprête à plonger ma cuillère dans ce grand bol chaud pour voir si peut-être j'ai une réminiscence de ce que j'ai goûté là-bas. Et ça, c'est incroyable. Voilà, c'est... je suis en train de manger une madeleine de Proust, là. Hein. Je retrouve l'exact même goût que j'ai goûté il y a plus de 10 ans. On a ce côté très sain de la soupe feu avec cette os à moelle qui a fondu, qui perle la surface de la soupe. On a ces deux viandes, une qui vient d'être cuite dans le bouillon et une autre qui a déjà cuit pendant 4 heures. Donc on a un jeu de texture assez fou. Puis il y a ce goût d'anis étoilé qui est incroyable, très herbacé, floral, terreux. Et je dénote le petit goût d'oignon un peu carbonisé. Parce que normalement, dans une soupe traditionnelle, on fait brûler les oignons avant. Je suis assez bluffée. Normalement, dans les soupes que je goûte en France, il y a un goût assez fort de glutamate, qu'on peut dénoter parce qu'il y a ce petit goût sucré un peu addictif qu'on retrouve dans tous les plats. Et dans celle-là, il n'y a pas. Il y a un goût très alcalin, en fait, pas sucré. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment délicieux.
Feu thaï validé ?
Totalement validé.
13,80€, le très copieux bol de feu et très nourrissant en plus, foncé chez Feu thaï. 13 rue Philibert, Lucco, Paris 13e, c'est vraiment une très très belle adresse. Et d'ailleurs, il est aussi question, Jennifer Hartsmith, dans votre livre de Bouillon Feu, par l'intermédiaire de Priscilla Tram, une formidable chef française d'origine vietnamienne qui œuvre rue Saint-Maur, hein, Paris 11e.
C'est ça.
Et qui donne une très bonne définition du feu.
C'est ça. Elle n'en sert pas forcément dans son restaurant, c'est important de le préciser.
Oui, mais c'est un bistrot français aux influences asiatiques.
C'est ça. Mais par contre, elle a une très belle définition parce qu'elle explique que justement, pour faire un bon feu, il faut de la patience, un certain goût de l'effort et une vraie envie de faire plaisir. Parce qu'il y a tellement d'étapes, il y a tellement d'étapes complexes, il faut un peu torréfier les épices, il faut faire un peu brûler les légumes, caraméliser l'oignon, il faut blanchir les viandes, rôtir les viandes, enfin il y a tellement d'étapes, laver les herbes, il y a au moins 24 heures de cuisson, il y a toute la dimension de l'assaisonnement derrière, il y a aussi le fait de servir minute, que la viande soit un peu crue, à la bonne température avec le bouillon. Bref, elle dit que justement, elle est un peu triste que ce plat soit connoté restauration rapide et qu'on attend de lui qu'il soit servi... enfin, qui soit pas très cher, parce que c'est un vrai travail de cuisine, vraiment.
Et restauration rapide pour un plat qui met autant de temps à être mitonné, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Absolument, il y a d'ailleurs dans votre livre aussi, page 50, un bouillon de bœuf d'influence feu, avec toute la panoplie des épices nécessaires, l'anis étoilé, clou de girofle, cannelle, cardamome, fenouil, coriandre et j'en passe. Il me fait très envie ce bouillon que je vais pratiquer très bientôt grâce à votre recette dans votre livre. Le bouillon n'est pas forcément chronophage, parce que là on parlait du feu qui met parfois 48 heures à être mitonné, qui frémit très très longtemps sur le feu. D'ailleurs, la culture française du bouillon, c'est la quintessence qui prend aussi beaucoup de temps à se concentrer. Alors qu'on peut avoir des bouillons justement très rapides, voire couleurs instantanées ou minutes, et on en a un très bel et très coloré exemple, j'ai envie de dire, sous nos micros. C'est vert, c'est très intriguant. Qu'est-ce que vous diriez, Manon et Elvira ?
Moi, à l'aspect visuel, je trouve que ça ressemble à un fond d'assiette de soupe au pistou.
Ouais, il y a,
Et après, végétal. Quand on goûte, donc c'est, quand on goûte, ça goûte l'ail, le persil frais.
Oui. Oui.
Y a même un côté presque ortie, mais je ne sais pas s'il y en a. Et ouais, il y a vraiment ce côté fond d'assiette avec le côté bouillon, mais avec des petits morceaux d'herbe et d'ail, qui c'est hyper agréable.
Il y a de l'ail, ça je vous le confirme.
Il y en a beaucoup.
Il y a également un petit peu, on sent la fraîcheur légèrement poivrée d'un gingembre.
Oui, alors on peut dire ce que c'est ?
Mais bien sûr.
Okay. Donc c'est le nocos, qui est un condiment et aussi une base de bouillon minute.
N-O-K-O-2-S,
le nocos, qui vient du Sénégal, et c'est Aissatou Mbaye qui m'a fait découvrir le nocos. En fait, elle l'utilise autant pour assaisonner que parfois comme une base de bouillon telle qu'elle. Donc il y a vraiment un mix d'oignons, d'ail. Est-ce que tu trouvais, Manon, les petits grains? C'est pas l'ail, c'est des amandes. Et si vous remarquez, il y a un petit côté lacté, légèrement en fait. Donc il y a aussi une base d'herbe, ça peut être du cresson, que j'aurais pu mettre tout à fait, ou du persil.
Remuons le couteau dans la plaie.
Du persil ou de la coriandre. Et il y a aussi des épices, du gingembre. Il y a un peu tout ce qu'on a aussi dans le frigo. C'est juste qu'on en fait une pâte qui ne va pas forcément pouvoir se garder aussi longtemps que des cubes de bouillon, mais on peut bien les garder au moins une semaine, 10 jours facilement. Et là, ça peut être une base de cuisine très, 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 très minute.
Est-ce qu'on la recouvre d'huile pour qu'elle se conserve ?
Exactement, pour pas que ça...
Comme on ferait d'un pesto, en quelque
exactement,
sorte.
Voilà. C'est une sorte de pesto amélioré, plus concentré en goût. Hein, comme vous disiez, il y a ce côté oignon-ail très prononcé qui va apporter l'assaisonnement, mais le nocos très pratique.
Et qui se transforme en bouillon au contact de l'eau chaude, en fait.
Au contact de l'eau, il y a vraiment ce côté dilution, c'est aussi le cas quand, voilà, avec des bouillons déshydratés, ça peut être très facile aussi.
Si je ne m'abuse, c'est végétalien.
C'est complètement végétalien, et on peut, après ajouter un petit peu de sauce poisson pour les personnes qui... La sauce poisson, c'est vraiment un assaisonnement aussi qui est très présent dans les bouillons en Asie, mais aussi au Sénégal.
Le nocos par la chef Aissatou Mbaye, chef, blogueuse, autrice culinaire sénégalaise, et son bouillon est vraiment juste parfait, c'est tout ce qu'on aime, et preuve encore une fois qu'on peut faire aussi évidemment des bouillons express. En parlant de bouillons express, alors là il y a beaucoup de travail sur l'esthétique, mais on va voir que c'est relativement accessible à la maison,
tout à fait.
Le bouillon de Manon Fleury.
France Inter. On va déguster.
Et oui, Manon, vous faites flirter le bouillon avec l'univers des desserts.
Oui, aujourd'hui, je vous propose de prolonger le remarquable travail de Jennifer avec un bouillon sucré. Au restaurant, les bouillons occupent une place centrale car ils permettent d'apporter de la saveur et de l'humidité tout en restant légers. C'est vraiment leur force, un maximum de saveur avec un maximum de légèreté. Et comme j'aime beaucoup ces textures mouillées et onctueuses, les bouillons se retrouvent très souvent dans nos menus chez Dattil. Et vous allez voir, cela marche très bien en version sucrée pour venir alléger les fins de repas tout en gardant de la gourmandise. Voici donc une proposition de dessert très goûteuse et très digeste qui conviendra parfaitement à ce mois de janvier. J'utilise la poire, qui est un de mes fruits préférés, car aussi, bien sûr, c'est la pleine saison. Et enfin, je réalise de la crème d'amande, en forme de petit hommage à la galette des rois, dont on garde ici le meilleur, mais en enlevant la lourdeur de la recette classique. Première étape, le bouillon de poire, qui est la chose la plus économique et la plus durable qui soit, car il est réalisé uniquement avec les pelures et les trognons de poire. Après les avoir coupés en deux, il faut les éplucher, prélever le trognon et on en réserve la chair pour la fin de la recette. On va tout simplement mixer les trognons et les pelures avec de l'eau. On obtient une sorte de bouillie qu'il faut amener sur le feu à petit frémissement tout en remuant régulièrement avec un fouet. Cela prend environ 30 minutes et à l'issue de la cuisson, il faut passer le contenu au chinois muni d'un torchon. Vous devez obtenir un bouillon clair que vous allez assaisonner avec le sucre. Ici intervient un ingrédient magique, dont Jennifer parle aussi dans son livre à la page 60, le kudzu. C'est un ingrédient d'origine asiatique qui se présente sous forme de poudre et qui provient d'une plante grimpante appelée aussi Pueraria montana. Vous pouvez vous en procurer assez facilement aujourd'hui dans les magasins bio, rayons farine et fécule, et notamment en ligne sur les sites d'épicerie asiatique. C'est donc entièrement naturel et l'intérêt... Et son intérêt, c'est sa capacité de liaison et de gélification. Il faut donc bien incorporer la poudre pour faire Rechauffez le bouillon et remuez sans vous arrêter avec un fouet jusqu'à ébullition. Il faut cuire pendant encore 5 minutes jusqu'à quand le mélange bout, le bouillon va épaissir petit à petit et quand il a pris une texture gluante, vous pouvez finir l'assaisonnement avec un peu de vinaigre de cidre. Mmh. On retrouve l'acidité de Jen. Vous obtenez ainsi un bouillon translucide, très aromatique, avec une belle consistance et une saveur sucrée, légèrement acidulée. Tout ça sans utiliser la chair des poires que vous aurez bien sûr réservée. Ensuite, je vais m'occuper de la crème d'amande. Alors, je préfère prévenir ici les puristes. J'ai mis au rebut la recette classique qui contient traditionnellement du beurre, des œufs et souvent une goutte d'alcool.
Oui.
Chez Datil, voici comment nous faisons la crème d'amande. On mixe dans un blender à puissance maximale 200 g de poudre d'amande avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance de fromage blanc. Et ensuite, on assaisonne la crème avec un peu de vinaigre de cidre pour l'acidité. Et voilà, c'est fini.
Qu'est-ce que c'est bon.
On obtient le vrai
c'est pas une frangipane
de l'amande qui ne sera pas dissimulée par le goût du beurre. Donc on a vraiment le goût de l'amande. Pour finir cette recette, je vous propose une garniture de fruits de saison en complément des morceaux de poire réservés. Ces morceaux vont être cuits dans un bouillon pendant environ 15 minutes. Et j'ajoute enfin des clémentines et des pomelos dont on prélève les segments. Le dressage est simple, il faut mettre au fond de chaque assiette une cuillère à café de crème d'amande que vous étalez en rond, vous répartissez vos morceaux de fruits par-dessus et à la dernière minute, vous versez le bouillon de poire refroidi. La crème d'amande vient alors se diluer dans le bouillon comme une liaison et chaque bouchée est profonde, un peu gluante, moelleuse et fruitée. Avec cette recette, vous goûtez l'esprit de la saison avec le mariage si connu de la poire et de l'amande, tout en restant parfaitement léger, sans gras ajouté et avec très peu de sucre. Je trouve que cette recette présente bien la manière avec laquelle nous approchons la cuisine aujourd'hui, sans préjugés ni principes établis, en allant au goût le plus directement possible et en enlevant toutes les procédures et ingrédients inutiles.
Et quelle recette avec la texture caressante, grâce au coup de zoom, hein, c'est bien ça, cette texture presque un peu visqueuse.
Ouais. Oui, mais qui gluante, il faut aimer le gluant.
Mais qui est délicieuse en bouche, et puis cette crème d'amande, c'est une révélation.
Ah oui, complètement, puis il y a vraiment un jeu de texture qui est incroyable. Et une petite feuille de tagette.
Oui.
Qui apporte une petite note un peu fruit de la passion.
On parlait avec Jennifer au début de l'émission. Le kudzu, c'est un ingrédient encore pas très connu en France, qui est hyper intéressant pour venir ajouter ce côté gélifiant au bouillon, sans gluten, ça c'est important, et avec vraiment ces textures qui sont pas très présentes finalement dans la cuisine française, à part avec les protéines animales, mais qui, je trouve, sont assez réconfortantes.
Je le disais, Manon Fleury, dans l'entame de cette émission, dans Bouillon bienfaisant, le livre de Jennifer Hartsmith chez Hachette Cuisine, vous êtes interviewé sur votre vision du bouillon, et il y a notamment cette technique, preuve là encore, que le bouillon peut être une stratégie rapide, cette technique de consommer végétal. Oui. Expliquez-nous, vous hachez en fait des légumes à cru.
On mixe les légumes à cru avec de l'eau, donc ça fonctionne avec du céleri, ça fonctionne avec toutes les raves en ce moment, c'est hyper intéressant, avec du topinambour, avec même des champignons. On mixe ces légumes à cru avec de l'eau, ce qui nous donne une bouillie qu'on va chauffer et qu'on remue au fouet pendant à peu près une trentaine de minutes, comme le bouillon de poire. Et la matière du légume va se décanter naturellement. C'est ça qui est hyper intéressant, parce que dans les consommés traditionnels français, on va rajouter de la matière, on va rajouter de la protéine, du blanc d'œuf, pour faire clarifier le bouillon. Et là, le bouillon va se clarifier naturellement avec la matière qui remonte à la surface.
Et on obtient un formidable consommé végétal, clair. Assez rapide à faire et clair.
Tout à fait.
Et très aromatique, qui porte en plus tous les nutriments du légume. Ça, c'est intéressant. Vous avez une trentaine de secondes, en quelques phrases, chère Jennifer, désolé, pour nous parler de cet incroyable bouillon déshydraté.
Le bouillon déshydraté, alors là j'ai vraiment mis à la fois des légumes,
maison,
des
évidemment.
Plantes. Alors moi j'aime bien rajouter des plantes parce que justement comme dans le dessert de Manon, je trouve que ça amène vraiment une petite dimension, ça nous amène un peu ailleurs. Là pour le coup j'ai mis de la menthe, ce côté un petit peu plus de la mélisse aussi séchée, et j'ai rajouté de la levure maltée qui est pareil, un ingrédient qu'on a parfois du mal à mettre. Alors on dit il faut saupoudrer les soupes, les salades et tout, mais finalement il y a cette saveur parmesan, umami, qui est vraiment intéressante dans un bouillon donc déshydraté.
Et là c'est le principe d'un bouillon déshydraté
aussi.
Qu'on a en poudre finalement dans un bocal en verre.
Exactement.
Et que l'on peut réveiller grâce à de l'eau chaude, quoi, 100 degrés, 90 degrés.
Ouais, 90 degrés c'est bien parce que du coup ça permet effectivement de diffuser les arômes, les plantes aussi, sans trop tuer les saveurs.
Bouillon bienfaisant, un super bouquin à se procurer pour attaquer l'année sur de bons rails alimentaires. Jennifer Hartsmith aux éditions Hachette Cuisine, un grand merci pour votre présence.
Merci beaucoup.
Vous partez en Australie demain, vous y restez 4 mois et vous reviendrez après évidemment. La semaine prochaine on va être un peu plus rablésien avec, tenez-vous bien, une émission consacrée à la culture des bouchons lyonnais. Vous allez voir que ça bouge dans la capitale des Gaules et des Gueules, avec notamment beaucoup de femmes au fourneau de nouveaux bouchons à dimanche prochain. Si vous avez encore faim,